RCF.
Deuxième volet d'une série consacrée à la joie en compagnie du philosophe Martin Stephens, auteur d'un petit traité de la joie paru aux éditions Salvator. Martin Stephens, nous avons vu avec vous que le fait de consentir à la vie, c'est primordial quand on veut s'ouvrir à la joie d'être. Et vous dites que la joie aussi naît d'une attitude essentielle qui est l'émerveillement. Alors nous avons déjà commencé à parler de cet émerveillement. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est un regard neuf sur chaque instant ?
C'est ça, c'est un regard neuf, c'est-à-dire que là, on est dans une société qui nous invite à voir tout le temps de nouvelles choses. Bon, l'enjeu étant de voir au contraire à nouveau les choses. Hein. Souvent, nos proches sont comme le décor de notre vie, comme une sorte de... Enfin, c'est un dû, voilà. Donc, leur présence ne nous émerveille pas. Et au contraire, on aurait tendance à ressentir le caractère crucial de leur présence quand ils viennent à manquer. Mais l'embêtant, c'est que c'est trop tard. Or, l'émerveillement, c'est poser sur sa vie un regard qui fait que tout à coup, les choses éclatent, jaillissent dans leur primeur. En fait, c'est rendre au réel sa primeur grâce à la primitivité de notre regard qui fait, au fond, comme si toutes ces choses qui sont le décor, qui sont comme un dû, pourraient ne pas être.
Oui, c'est voilà. Ça. Vous dites qu'il faudrait pratiquer l'exercice de se dire, mon ami le plus cher, mes enfants, ce travail que j'aime beaucoup, cette nature qui m'environne, pourrait ne pas être. Et ça existe, et m'en réjouir.
C'est ça, reverser le réel dans ce qu'on appelle en philosophie la contingence, c'est-à-dire, et contingence qui peut ne pas être, reverser le réel dans sa contingence pour s'émerveiller de ce que mon réel, ma vie, tout simplement, soit.
Donc le miracle n'est pas forcément dans l'extraordinaire.
Voilà, c'est ça, c'est qu'on a tendance à penser que quelque chose d'ordinaire n'est pas miraculeux. Or, le miracle, c'est effectivement que le miracle soit quelque chose d'ordinaire. Comme le disait Chesterton, que j'aime bien citer, ce penseur anglais du début du XXe siècle, il disait « il est davantage extraordinaire qu'un homme ait un nez, plutôt qu'il ait un nez tordu ou un nez cassé. C'est davantage extraordinaire qu'un homme marche, plutôt qu'il marche de telle ou telle façon. C'est-à-dire que l'ordinaire est davantage stupéfiant que ce qui, dans l'ordinaire, échappe à l'ordinaire.
Pour revenir sur le champ de la divinité ou de la spiritualité, on peut justement s'attendre à un Dieu extraordinaire. Or, le christianisme nous dévoile cet homme qui marche sur la terre des vivants et qui va finalement se mêler à l'ordinaire des jours et qui va nous apprendre à regarder.
C'est ça, le christianisme, je crois que c'est un mystère non de l'invisibilité, même s'il y a ça aussi bien sûr, mais c'est avant tout une religion qui a rendu la visibilité mystérieuse. C'est-à-dire que le miracle, c'est notre présence au monde, Dieu a mis ses pas dans les nôtres, dans nos pas fragiles, et ce faisant, il a sanctifié ces pas-là. Et on voit bien que à partir du christianisme, beaucoup de dimensions de la vie humaine ont été élevé à une dimension divine, la maternité, même le fait d'être un bébé. Dieu qui s'incarne, c'est Dieu qui se fait bébé. Alors effectivement, il y a quelque chose d'absolument ahurissant dans le fait de la naissance, dans le fait que nous possédions un corps. Et le christianisme est la religion qui divinise l'ordinaire.
Donc on pourrait dire heureux ceux qui voient réellement.
Oui, c'est ça. C'est vraiment la qualité de regard. J'ai envie de dire que le mot regard, il faut l'entendre dans son premier sens, c'est-à-dire que dans le fait de regarder, il y a quelque chose qui relève de garder quelque chose. Dans notre regard, on abrite quelque chose et on abrite quelque chose de la merveille du monde. On voit beaucoup, on voit très vite, mais on ne regarde pas assez, c'est-à-dire on n'abrite pas le monde dans ce regard qui, en remerciant pour le monde tel qu'il se déploie devant nous, en préserve le secret, en préserve la saveur.
Mais parce qu'on a aussi une démarche assez captatrice par rapport à ce monde environnant, on veut prendre. D'ailleurs, c'est l'objectif souvent premier du nourrisson, assez agrippant vis-à-vis de sa mère.
Oui, et le nourrisson, tant qu'il il est dans cette modalité captative vis-à-vis du réel, il n'a pas la conscience. Sa conscience va se développer au fur et à mesure du fait qu'il va se libérer de cette dimension captatrice, qu'il va cesser de rapporter toute chose à lui et que du coup, il va reconnaître que sa mère n'est pas lui-même. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est le point culminant de la vie spirituelle, c'est de rendre l'autre à son altérité. Autrui est un autre que moi, en dehors de ce que je peux capter de sa présence.
Martin Stephens, dans l'Évangile, Jésus dit que les enfants ont cette capacité à regarder, justement, à savoir regarder. Il dit que le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. L'enfant nous aide à comprendre ce que peut être l'émerveillement.
Oui, tout à fait, parce que le mot naïf, l'enfant est naïf, c'est à rapprocher de la nativité. Et c'est vrai que ce regard neuf sur les choses, c'est ce regard natif qui donne à toute chose de naître. Souvent, les enfants, et parfois, ils en usent et ils en abusent, ils posent la question « pourquoi ?». Alors, parfois, c'est simplement pour ne pas avoir à ranger leur assiette. Mais pourquoi je dois ranger mon assiette ? Bon, mais il y a quelque chose dans cette question, qui est la question philosophique par excellence. Il y a quelque chose qui nous convoque à un rapport tout à fait autre aux choses, où on va faire le détour. Tout à coup, cette chose qui semblait évidente ne l'est plus. Mais oui, au fond, pourquoi ? Et l'enfant est le gardien de cette belle question et nous convoque auprès de cette question. Et l'on voit, de toute façon, on est tous des grands enfants, c'est-à-dire que bien souvent, on pourrait être prise en flagrant délit d'enfance quand on aime, au fond, on aime comme un enfant.
Comment aiguiser ses sens, Martin Stephens, à l'émerveillement ? Est-ce que c'est par la méditation, la prière chrétienne ? Est-ce que cette prière peut nous aider à sortir de nos ornières ou des choses de l'ordre du connu, que l'on connaît par cœur ?
Ah oui, je pense que la prière chrétienne, par rapport à d'autres types de méditation, la prière chrétienne a ceci d'extraordinaire qu'elle met la créature en contact avec le Créateur, de telle sorte que Dieu, elle nous invite à voir le monde comme Dieu lui-même voit le monde, c'est-à-dire comme une création continuée. Comme une création qui, sous nos yeux, est en train de se faire. Au fond, le monde est une fleur qui actuellement s'épanouit. Et dans la prière, nous prenons le temps de cueillir cette fleur. Nous nous recueillons, c'est-à-dire que nous accueillons du monde ce qui en fait la splendeur. Et à mon avis, cela se peut surtout parce que toute prière est action de grâce. Dans l'action de grâce, nous recevons le monde tel qu'il se donne à nous. Et je crois que le drame de l'homme n'est pas de manquer, il est de ne pas recevoir assez ce qui se donne à lui.
Donc ça nous entraîne à regarder et à remercier.
Oui, tout à fait. C'était Dostoïevski qui disait « Mais si Dieu n'existe pas, à qui l'homme chantera son hymne de louange, qui donc remerciera-t-il pour ses heures de gloire ?» Et effectivement, je crois qu'on peut se convertir par la nécessité de dire merci. Nous vivons, tout être humain vit des choses qui requièrent son plus grand merci. Si on ose ce merci-là, eh bien on est tout de suite renvoyé non seulement à un Dieu créateur, mais à un Dieu personnel. Parce qu'on ne dit pas merci à un principe impermanent, on dit merci à quelqu'un.
À une personne, dans le christianisme, effectivement, ce mystère d'un Dieu trinitaire, d'un Dieu trine, trois personnes. Qu'est-ce que vous pourriez dire là-dessus ?
Eh bien, on peut comprendre la Trinité à partir de la catégorie de don. Si le Dieu est tout-puissant, il ne peut pas être jaloux de sa puissance. La garder pour lui, rester un bloc monolithique, ça n'a pas de sens. Donc, en tant que tout-puissant, en tant que comblé, il doit se donner. Il doit se donner entièrement, c'est-à-dire ce qui est premier en Dieu, c'est la relation entre le Père et le Fils. Et le Fils est le même que le Père, car le Père lui a tout donné, mais il est autre que lui, car pour donner même tout, il faut le donner à quelqu'un. Et le Fils, en recevant tout ce qui lui est donné, eh bien, recevoir, c'est authentifier le donateur. Et ce mouvement d'authentification du donateur, c'est l'Esprit Saint. Et finalement, la Trinité, c'est exactement ce qui se passe quand, dans notre vie, nous vivons l'expérience du don.
Et du consentement, puisqu'il y a un accueil d'une vie donnée, offerte, qu'on accueille complètement. Reconnaître un donateur, on se trouve là dans le mouvement trinitaire.
Tout à fait. C'est Jésus est quelqu'un qui, dans sa prière, et on voit qu'il prie beaucoup, se reçoit d'un autre. Et je crois qu'on est vraiment invité par cette religion chrétienne à se recevoir tout entier de quelqu'un d'autre.
Mais alors, quelle difficulté dans un monde où on prône justement le faire tout seul, l'individualisme ?
Oui, l'individualisme est un peu le risque que Dieu consent à prendre. Au fond, il nous donne à nous-mêmes. Et voilà, et quelque chose qui est donné, hein, comme disent les enfants, donner c'est donner, reprendre c'est voler. Donc, en un sens, Dieu nous donne à nous-mêmes avec ce risque qu'il prend que nous nous préférions à lui. Bon, mais au fond, c'est le risque qu'il accepte pleinement de prendre. Après, la créature peut remarquer que finalement, le meilleur moyen de se recevoir et de jouir de ce don, c'est de dire merci. L'enfant gâté est celui qui, étant incapable de dire merci, finalement ne possède rien. N'accusant pas réception des cadeaux qui lui sont faits, eh bien, il se trouve toujours mécontent de ce qu'il a. Et c'est pour ça que le christianisme n'est pas d'abord une religion morale. Il ne s'agit pas de dire, mais attention, ton existence, tu la dois à ton créateur. Il s'agit simplement de dire, mais si tu veux pleinement jouir du don de la vie, eh bien, commence par dire merci.
À demain, Martin Stephens.